Bien, bonjour, je suis Julien Meunier, je suis conseiller pédagogique au sein du Centre d'accompagnement à la pédagogie pour les enseignants à l'Université de Tours.
Bonjour, je suis Benoît Reynaud et je suis également conseiller pédagogique au CAP à l'Université de Tours.
Alors Benoît, on s'est un peu questionné pour savoir comment est-ce qu'on allait présenter le métier de conseiller pédagogique, parce que les missions, elles sont nombreuses et puis elles sont variées. Bon, il nous a semblé quand même important de peut-être d'identifier quelques points. En tout cas, il nous semble qu'il y a des fonctions comme la formation, l'accompagnement des enseignants ou des formateurs, et puis aussi la valorisation en fait des initiatives pédagogiques qui peuvent exister dans les établissements d'enseignement supérieur, qui constituent finalement presque le quotidien du métier de conseiller pédagogique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et puis détailler un petit peu ces différents aspects?
Oui, tout à fait. Donc pour sur l'aspect de la formation, déjà, comme tu l'as dit, on va former des enseignants, des chargés de cours également, ou des personnels de l'université qui sont amenés à être en position de formateur à un moment ou à un autre. Et donc du coup, on va partir de leurs besoins et de leurs contraintes. On va essayer de leur proposer une offre de formation qui va être en correspondance avec cela, et de communiquer sur cette offre de formation pour qu'ils puissent s'inscrire, hein, tout simplement. Et on va ensuite concevoir les sessions de formation. Et donc, ces sessions de formation, il faut qu'elles puissent prendre différents formats, aussi bien parfois il est plus utile, nécessaire qu'elles soient en présentiel. Parfois, on va être plutôt sur du distanciel et sinon, on peut faire aussi sur des formats plus hybrides. Leur contenu, donc pour répondre à leurs besoins, ils vont être par exemple sur la dynamique de projet ou sur favoriser les interactions avec les étudiants si on est dans l'enseignement supérieur ou encore sur la classe inversée. Et donc, on va leur proposer ces différents formats. Donc, et on va concevoir et mener, animer ces formations également. On va aussi créer des ressources pédagogiques pour qu'ils puissent, en autonomie, se former. Donc là, ça peut prendre, par exemple, l'aspect de guide. On a fait des guides sur la direction d'études. On a fait des guides aussi à l'aide de nos collègues ingénieurs pédagogiques sur la formation à distance, entre autres. Et donc, pour pouvoir faire tout cela, on a besoin d'une veille, de faire une veille sur les pratiques pédagogiques, sur les fonctionnements des établissements, sur la recherche, de façon à pouvoir amener un œil d'expert, voilà, en regardant un petit peu ce qui se fait dans nos murs, mais aussi à l'extérieur, voire à l'international.
Alors du coup, oui, tu as beaucoup parlé de la dimension formation, et c'est vrai que ça fait partie des gestes professionnels, hein, d'un conseiller pédagogique, penser des formations, les construire, les animer, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une dimension, moi, il me semble, importante, qui est aussi l'accompagnement, en fait, des enseignants. Il y a des enseignants qui viennent nous voir parce qu'ils ont envie de transformer quelque chose dans leurs enseignements, ou alors parce qu'ils ont des projets et qu'ils ne savent pas par quel bout en fait ils pourraient attaquer la transformation, par exemple, ou ce projet pour leurs étudiants. Donc c'est vrai que moi je pense qu'il y a aussi vraiment cette dimension d'accompagnement, et pour que ça fonctionne, il me semble qu'il faut aussi préciser que nous on a un cadre, on va dire, aussi déontologique dans la manière d'accompagner les enseignants. Alors, avec quelques principes, moi il me semble, premier principe, c'est le principe de confidentialité, c'est-à-dire les enseignants, quand ils viennent nous voir, il faut qu'ils sachent qu'ils vont pouvoir avoir accès à l'échange avec nous qui va rester confidentiel, qu'il ne sera pas, les propos qu'ils vont développer ne seront pas retransmis ailleurs, enfin voilà, ça va rester entre nous. Donc je pense que ça, c'est une des conditions sine qua non déjà pour établir une relation de confiance. Et puis un autre aspect, c'est on n'a pas de volonté prescriptive, hein, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'expliquer aux enseignants ce qu'ils doivent faire, mais plutôt les possibles, c'est-à-dire leur présenter des ressources, des initiatives qui peuvent exister dans d'autres disciplines ou dans les disciplines connexes aux leurs. Et puis, il y a aussi une dimension de non thérapeutique, quoi. C'est-à-dire que quand ils viennent dans notre bureau, c'est pas pour être soigné ou pour être traité de manière comme un patient, quoi. Nous, on échange de professionnel à professionnel, et donc du coup, c'est plutôt de les outiller, proposer des ressources, voilà. Et il s'agit pas de traiter quelques difficultés que ce soit, qui par ailleurs peuvent être traitées par d'autres professionnels, des psychologues du travail par ailleurs, quoi. Voilà. Donc il y a aussi cette dimension qui est importante, la confidentialité, la non-prescription, et puis pas d'approche thérapeutique. Ça me semble être des points qui sont importants à rappeler dans la déontologie d'un conseiller pédagogique, quoi.
Oui, tout à fait. Ce qu'on peut signaler également pour compléter, c'est qu'on est un accompagnement dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Donc, on peut avoir des personnes qui sont nouveaux dans le métier ou des gens qui ont déjà bien roulé leur bosse et qui ont envie de se renouveler, d'expérimenter, ou qui sont insatisfaits pour telle ou telle raison. Et donc, à nous de comprendre et de pouvoir travailler non dans l'urgence, mais dans une temporalité tranquille. Souvent, on est face à des gens qui, eux, sont dans une urgence d'opérationnalité, des choses comme ça. Et si on veut prendre suffisamment de recul, à nous d'amener cela également.
Il y a un aspect aussi, du coup, qu'on a commencé à aborder, mais qu'on a peu développé, c'est la valorisation aussi, en fait, des initiatives des enseignants, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on parle souvent d'initiatives, d'innovation pédagogique, mais en réalité, les enseignants, ils innovent beaucoup, ils prennent aussi beaucoup d'initiatives qui sont pas toujours visibles dans les établissements d'enseignement supérieur, et pourtant elles existent. Et donc du coup, bah nous, on a aussi cette mission de visibiliser toutes ces tentatives, ces expérimentations qui sont nombreuses.
Tout à fait. Là, l'idée est d'aller à la rencontre, en fait, des enseignants sur le terrain, de ne pas rester dans nos bureaux et de nous imprégner de leurs pratiques pédagogiques, d'être à l'écoute de ce qu'ils font, eux, et de voir avec eux quel est le meilleur moyen de diffuser leurs pratiques au sein de la communauté universitaire. Donc on réfléchit ensemble, quels sont les moyens. Un des moyens qui revient souvent actuellement, c'est de faire des captations vidéo, alors soit des cours parfois, soit sous forme d'interview. Et donc du coup, ça, puisqu'on est sur le quotidien de notre métier, on travaille main dans la main avec les techniciens audiovisuels de l'université pour pouvoir réaliser tout cela. Et ensuite, eh bien, il faut trouver dans quel lieu est-ce qu'on va diffuser ces pratiques. Et donc du coup, ça peut être un site. Nous, on a à l'Université de Tours, le CAP a sa pédagothèque sur laquelle on va pouvoir diffuser ces captations. Mais on va aussi pouvoir créer des espaces privilégiés, dédiés à la pédagogie. Alors là, on n'est plus sur de la captation, on est sur du témoignage. On va faire des cafés pédagogiques, par exemple, ou d'autres rendez-vous, d'autres événements. Ça peut être une journée dédiée. Et donc, je pense que le conseiller pédagogique, il a cette mission forte de créer des espaces privilégiés pour la pédagogie qui soient moins pris dans le temps, dans la rapidité. On va se poser et on va prendre le temps de réfléchir.
Et alors, pareil, en préparant un petit peu cet entretien-là, en fait, on s'était dit que c'était aussi peut-être important de revenir sur l'émergence de ce métier de conseiller pédagogique dans l'enseignement supérieur, puisque finalement, c'est assez récent, c'est un métier qui est jeune, d'une certaine manière. De redire pourquoi il avait émergé comme ça, en fait, suite à la massification de l'enseignement supérieur, à l'arrivée de nouveaux publics, où parfois les enseignants se sont retrouvés peut-être à des moments plus en difficulté pour capter, en fait, ces différents étudiants avec des parcours très variés. Et donc, du coup, le conseiller, il vient aussi apporter cette expertise, cette connaissance des différents publics, d'aider à adapter aussi les enseignements à ces nouveaux publics. Donc, je pense que ça, c'est un aspect important. Et puis, il y a différentes dimensions sur lesquelles on intervient, c'est-à-dire que le conseiller pédagogique, il a aussi une expertise de l'évolution des politiques publiques dans l'enseignement supérieur, en particulier depuis effectivement l'harmonisation européenne et le processus de Bologne, qui a amené de nouvelles manières d'appréhender en fait les cursus de formation. Alors, en particulier, je pense aux approches par compétences qui se sont beaucoup développées dans les filières professionnelles type IUT ou École Polytechnique, enfin dans, globalement dans toutes les filières qui sont très professionnalisantes. Et puis aussi ce qu'on appelle le développement des parcours flexibles, de la modularisation par exemple, qui a nécessité d'avoir aussi au sein des établissements des gens qui avaient une expertise sur ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit des parcours de formation. Il y a des progressions à l'intérieur de ces parcours, comment on articule les différents modules les uns avec les autres. Et donc, le conseiller pédagogique, voilà, il amène aussi ça, cette expertise-là dans l'enseignement supérieur, peut-être qui n'existait pas avant, ou en tout cas, qui n'était pas nécessaire tel que ça l'est aujourd'hui, du fait aussi de la formation tout au long de la vie, et des VAE, des parcours partiels, etc. quoi. Et puis, la prise en compte aussi, on a dit, de publics différents, voilà, une université plus inclusive, qui prend en compte le fait que nous avons des étudiants qui sont des étudiants salariés pour beaucoup d'entre eux, donc qui ne peuvent pas être disponibles comme ceux qui peuvent être présents à l'ensemble des cours. Donc comment est-ce qu'on prend en compte ça aussi, mais aussi des étudiants qui sont porteurs de handicap, des étudiants qui sont sportifs de haut niveau ou artistes de haut niveau. Enfin voilà, tout un tas d'étudiants qui ont des vies, des parcours, des quotidiens différents et le conseiller, il doit aussi aider les enseignants à prendre en compte cette diversité. Pour avoir des formations qui sont au plus près des besoins des uns et des autres. Il y a un autre aspect peut-être qui est important aussi d'évoquer, c'est que on s'est dit, dans les universités aujourd'hui, on trouve différents types de personnel qui accompagnent à la pédagogie, hein, à la fois les ingénieurs, les conseillers pédagogiques, les ingénieurs technopédagogiques aussi. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment est-ce que tu conçois cette différence entre les deux, quoi?
C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent, en fait, puisque l'Université de Tours fait une différence, en fait. Donc, je pense que d'abord, sur ce sujet-là, avant d'aborder les différences, je pense qu'il faut dire qu'il y a surtout beaucoup de points communs. Le point commun principal étant l'ingénierie pédagogique, en fait. Les deux font de l'ingénierie pédagogique. Comme le rappelle d'ailleurs très bien, il y a une publication récente qu'a fait l'ANSTIA, l'Association nationale pour les services TIS et audiovisuels, les techniciens audiovisuels. Et dedans, il précise que, en fait, on pourrait plutôt parler en termes de métier type, de ingénieurs et conseillers pédagogiques. En fait, peut-être que les deux seraient peut-être plus simples à les mettre ensemble. Et donc, du coup, pour quand même revenir sur les différences, mais qui sont locales, en fait, elles sont même souvent historiques, puisque en fait, les conseillers et les ingénieurs pédagogiques sont assez récents, tu le soulignais, et en fait, il y avait déjà des services qui étaient en place, donc en fonction, dans les universités. Donc en fonction des spécificités des services des universités, ça se reporte sur les spécificités conseillers et ingénieurs pédagogiques. Donc à Tours, cela étant dit, à Tours, les ingénieurs pédagogiques ont une couleur un peu plus technopédagogique, plus axée donc sur le numérique, sur les usages des outils numériques, sur la formation à distance, sur la médiatisation des cours. Ils vont être un peu plus attendus que nous conseillers sur ces points. Et nous, en tant que conseillers, on va être plus attendus sur l'ingénierie de formation dont tu parlais, hein, le soutien pour l'élaboration des maquettes, des choses comme ça. Et puis sur, comme on le disait au tout début, l'accompagnement en fait au développement professionnel des enseignants sur leur métier. Donc un peu plus personnel. Donc voilà pour les
Et alors peut-être pour ouvrir un petit peu, parce que ce qui est important de rappeler aussi, c'est que c'est pas une spécificité de l'enseignement supérieur, hein, les conseillers pédagogiques, parce qu'on connaît depuis longtemps les conseillers pédagogiques dans l'éducation nationale, hein, qui sont eux-mêmes des enseignants, qui accompagnent leurs collègues sur des thématiques, alors dans le premier, le second degré, ou alors sur l'enseignement spécialisé par exemple, hein. Ces conseillers pédagogiques, ils existent depuis longtemps là, dans l'éducation nationale. Mais par ailleurs, dans les organismes de formation ou dans les instituts de formation, on trouve souvent des personnes qui font office de conseillers pédagogiques. Ça peut être les coordinateurs de formation qui vont appuyer leurs collègues sur interroger leurs pratiques, questionner les maquettes de formation. Hein. Donc les coordinateurs pédagogiques font office souvent de conseillers pédagogiques. Voilà, bah merci en tout cas Benoît pour toutes ces précisions. On espère que voilà, ça aura permis d'éclairer un petit peu le travail et les fonctions de conseiller pédagogique dans l'enseignement supérieur et ailleurs. Merci.
Merci à toi aussi Julien.